Munich, Lazio de Rome, Inter Milan, Atlético Madrid ou encore Naples FC Barcelone. 9h09 ici à Paris. La première partie d'Appel sur l'actualité, c'est avec vous, Juan Gomez.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous-jacente,
j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour. Encore aujourd'hui, mythologie rime avec fantaisie. C'est la saison 2 de 50 nuances de grec. Jules, dessinateur de presse et auteur de bande dessinée, a publié cette désopilante histoire de l'Olympe en septembre 2022 aux éditions du Seuil. Il est aussi l'auteur de la série du même nom diffusée sur Arte et associé à Charles Pépin d'une BD en 2 tomes. Chant 6, ou l'état du marché de l'emploi dans la Grèce antique met Héraclès dans une situation embarrassante. C'est toujours agréable d'aller au cinéma à la séance du matin. Il n'y a presque personne et on peut rattraper les films qu'on a ratés pendant la guerre de Troie, par exemple. Ce jour-là, Ulysse et Achille qui sortent de l'Odyssée ciné-cité des Halles et sont à la recherche d'une terrasse pour déjeuner, se trouve arrêté par une longue file d'attente qui s'étire sur 50 mètres. Des hommes vêtus de toges athéniennes, des femmes chaussées de cothurnes, des guerriers transpirant sans bruit dans leurs armures défraîchies, des centaures, des cyclopes, des sphinx taciturnes, tous ont dans le regard une certaine lassitude.
Dis donc, c'est quoi cette queue de malade ? L'oracle de Delphes a annoncé qu'elle donnerait les chiffres gagnants du loto à 14h ou quoi ?
La dernière fois que j'ai vu ça, c'était pour le concert d'Orphée au Bataclan.
Ulysse, incapable comme toujours de réfréner sa légendaire curiosité, s'approche d'un centaure plongé dans la lecture de Pariturf.
Excusez-moi, il y a un truc spécial ce soir ? Un match ? Un spectacle particulier ?
Personne dans la file d'attente ne semble apprécier la question. Ah, très drôle !
Ça vous amuse de vous moquer du malheur des autres ?
Ah mince, non, j'ai compris. En fait, ces types sont des chômeurs de la mythologie gréco-latine. Ils sont tous en train d'attendre leur tour au guichet d'Acropole Emploi.
T'es sûr ?
Ben oui, regarde. Tu vois pas les hécatonchires dans la queue là-bas ?
Les quoi ?
Les hécatonchires. Tu vois, même toi, tu connais pas. C'est des divinités primordiales, hyper anciennes, avec plusieurs bras, qui étaient là avant même les divinités de l'Olympe.
En même temps que les titans ?
Ouais, mais ils ont jamais trop réussi à percer dans le milieu. Et puis maintenant, à leur âge, qu'est-ce que tu veux leur faire faire ? Si tu cherches quelqu'un avec plein de bras pour trier le courrier en torchant les gamins, tu vas pas les demander à des vieux écatonchires qui puent le fromage de chèvre.
C'est sûr. D'autant que pour la moitié du prix, tu peux prendre une divinité canon de la mythologie hindoue, genre Shiva.
Et puis les hindous, avec leurs histoires de réincarnation, ils sont pas obsédés comme nous par les CDI. Ça rassure les employeurs.
Enfin quand même, il y a vraiment beaucoup de demandeurs d'emploi. En pleine antiquité, ça devrait pourtant recruter dans le secteur mythologie.
Heureux les guerriers dans la force de l'âge, car ils n'ont pas affronté les monstres de l'administration. Tandis qu'Ulysse et Achille s'apitoient sur le sort des chômeurs. Des personnages légendaires piétinent devant le guichet d'Acropole Emploi, région Attique. Derrière un grillage fatigué, une fonctionnaire reçoit une sphinge voûtée. Son corps de fauve est encore puissant, mais ses ailes ont perdu de leur lustre.
Oui, oui, je comprends bien, mademoiselle. Mais tous les postes de sphinx sont actuellement pourvus. Si vous pouvez attendre le 19e siècle et l'iconographie romantique et symboliste, on prévoit une forte demande sur ce type de profil.
Eh, hey, dis donc, t'as vu là-bas ?
Quoi donc ?
Regarde qui est en rendez-vous au guichet numéro 2.
Par la grande porte ouverte à double battant, l'on aperçoit la silhouette d'un solide gaillard, coiffé d'une peau de lion mangée au mythe et qui paraît intimidé devant le fonctionnaire grisonnant qui l'accueille dans un festin de paperasse.
Alors, laissez-moi reprendre votre dossier. Ah, oui, c'est bien, vous êtes assez polyvalent. Enfin, avec une spécialisation dans le domaine de la chasse, tout de même.
Ah, là, je fais tout, hein. Le sanglier, le lion, la biche.
Malheureusement, on est saturé dans ce secteur, monsieur Héraclès. Vous avez aussi une expérience dans les travaux agricoles ?
Ah oui, grâce à mon cousin, j'ai travaillé comme saisonnier à la cueillette des pommes d'or dans le jardin des Hespérides.
Eh ben, c'est bien ça ! Pourquoi vous n'avez pas continué ?
Ben, après, il n'y avait plus de pommes. Et puis, on a eu une embrouille avec le propriétaire. Enfin, bref, ils n'ont pas donné suite, quoi.
C'est dommage. Parce que je dois avouer qu'on n'a vraiment pas grand-chose pour vous en ce moment. Il va falloir revenir nous voir le mois prochain, j'en ai bien peur.
J'ai entendu dire qu'il y avait du travail comme homme de ménage dans les écuries d'Augias. Non, parce que j'ai suivi une formation hygiène et maintenance à Mykonos récemment, et...
Oui, je vois à quoi vous pensez. Mais on a donné le poste à des tritons albanais en contrat de calife.
Hercule ne peut masquer sa déception devant laquelle le fonctionnaire se sent tristement démuni.
Ah bon ?
Oui, vraiment désolé. Mais en tout cas, je vous félicite pour vos efforts de présentation depuis la dernière fois. La peau de lion sur la tête, la massue, la cravate. Vraiment, on sait beaucoup mieux comme ça.
Ah ben, merci.
Allez, au revoir, monsieur Héraclès. Bon courage. Suivant.
C'est vers un Hercule dépité que s'avancent Ulysse et Achille débordant de sollicitude fraternelle.
Hé, hey, mais Hercule, qu'est-ce que tu fais ici ? Je croyais que t'étais hyper busy avec tes 12 travaux et tout ça. 12 travaux, tu parles, ils ne m'en ont même pas trouvé un seul des travaux.
Oh la vache ! Pour un hyperactif comme toi, ça doit être quand même dur.
Monsieur Héraclès ?
Le fonctionnaire a quitté son poste et rattrape Hercule dans le hall, un papier à la main. Y aurait-il un espoir ?
Oui.
Et un stage à la pizzeria Posidon Camillo des Champs-Élysées, ça vous branche ?
Chant 7. Où Zeus, le roi des dieux de l'Olympe, fait le point sur son innombrable progéniture. Malkos et Sotiros associés. On lui a bien demandé de s'assurer que la plaque en bronze vissée sur la porte restait rutilante. Cela ne fait pas 3 semaines que Virginie a décroché un poste d'assistante dans ce cabinet d'avocats, l'un des plus prestigieux du bassin méditerranéen. Et elle a déjà vu défiler bon nombre de clients fébriles, abandonnant leur destin entre les mains de cet énorme du barreau. Maître Julie Sotiros n'a pas 40 ans, mais déjà une solide expérience dans le droit de la famille, un domaine en pleine recomposition dans la mythologie grecque. Il faut pourtant bien constater que l'arrivée en ce lundi matin de Zeus, le plus puissant des dieux de l'Olympe, a créé un certain remous dans les couloirs feutrés du cabinet. Tout en classant le courrier du jour, Virginie surveille d'un œil, par l'embrasure de la porte, le rendez-vous du dieu barbu, calé sur une chaise, face à Maître Sotiros, protégé par une muraille de dossiers. Il a l'air d'une humeur massacrante, mais l'avocate ne se démonte pas devant les grommellements d'impatience de son client.
Bon, alors, récapitulons. Vous avez eu 3 enfants avec Héra, 4 si on compte Héphaïstos.
Celui-là, il ne me cause que des emmerdements.
Avec Maya, vous avez eu Hermès.
Ah ben, il vaut pas mieux que son frère non plus, lui.
Avec Dionée, vous avez fait les petites Amphitrite et Aphrodite. C'est joli, Aphrodite, c'est vous qui avez trouvé le prénom ?
Zeus, qui n'est pas venu ici pour écouter les remarques personnelles de son avocate, l'interrompt sèchement.
Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
Maître Sotiros cille à peine et poursuit l'exposé du dossier.
Ensuite, attendez que je retrouve le papier. Ah oui, Leto. Donc, Madame Leto vous a donné vos 2 jumeaux, Apollon et Artémis. Avec Mnémosyne, vous avez eu, 9. C'est bien ça qui est écrit ?
Zeus se penche vers une feuille volante que l'avocate lui tend à travers le bureau.
Oui.
9 filles donc avec Mnémosyne. Eh ben...
Dites donc, je me passe de vos commentaires, hein.
Bien sûr, pardonnez-moi. Poursuivons. A priori, vous êtes aussi le père de Perséphone avec Déméter. Avec Métis, vous avez eu Athéna. Elle est connue, elle, non ? Avec Thémis, les 3 moires. Avec Callisto, Pan. Avec Électre, 4 enfants. Dardanos, Hémation, Iasion et Harmonie. Vous aimez bien les prénoms rares, quand même, non ?
C'est pas rare, c'est hellénistique.
Maître Sotiros esquisse un sourire vite effacé et reprend la rigoureuse énumération de la généalogie divine.
Calliope est la mère des Corybantes. Callicé a enfanté pour vous Hétlios et Endymion.
Enfin, eux, je les ai même jamais vus, hein.
Ensuite...
Il doit sans doute manquer un élément dans le classement des rejetons de Zeus. Julie Sotiros se penche vers la porte et interpelle son assistante dans la pièce voisine.
Virginie ?
La tête de l'assistante, une vraie salade de pommes de terre froides sous de beaux cheveux bruns ramenés en tresse, se profile dans l'encadrement de la porte.
Oui, maître ?
Vous pouvez m'apporter le dossier jaune ?
Tout de suite.
Zeus suit du regard la silhouette de l'assistante qui tourne les talons, s'attardant sur la courbe gracieuse de ses hanches. L'avocate rajuste ses lunettes pour consulter une liste épinglée dans un tas de papiers et reprend le fil de son exposé.
J'ai aussi la trace de Britomartis que vous avez eue avec Carmé.
J'étais bourré, alors...
Argos et Pélagos avec Niobé. Virginie, ça vient ce dossier ?
On entend la voix étouffée de la jeune femme perdue dans un dédale d'archives au fond du cabinet.
Il y en a plein, des dossiers jaunes.
Près de l'armoire du coin cuisine, sous le tupperware de Moussaka.
L'avocate ne peut masquer un soupçon d'impatience. Elle sait que le temps de ses clients est précieux, mais très vite, Virginie réapparaît, une pochette canarie à la main.
Ah voilà, excusez-la, elle a fait un stage à Bruxelles et depuis elle ne comprend plus rien à la culture grecque.
Repérant sans tarder la pièce manquante, Julie Sotiros complète sa recension.
Nous avons aussi les enfants de Léda, soit Pollux et Hélène, et si j'ai bien compris, Castor et Clytemnestre étaient dans le même œuf. Mais c'est des demi-frères et sœurs, c'est ça ?
Le seigneur de l'Olympe minimise la situation.
Non, mais là, attendez, ça compte pas. J'étais métamorphosé en cygne, alors.
Ah oui, mais vous savez, il y a une jurisprudence sur les métamorphoses, depuis Ovid. Maintenant, toutes les naissances issues d'accouplements sous avatar sont reconnues par le tribunal des affaires familiales.
Hein ? Ben, c'est n'importe quoi !
Ah ben, c'est sûr que ça nous facilite pas le travail.
Vous voulez dire que quand je me transforme en taureau blanc, ça compte aussi ?
L'avocat tire un dossier coincé entre deux piles latérales.
Si vous faites allusion aux trois enfants que vous avez eus avec Europe, oui, en effet. D'ailleurs, on a des images de vidéosurveillance du jour de la rencontre, si vous voulez.
Oui, ça ira.
Et donc, quand vous êtes en cheval et que vous faites un enfant avec Dia, ou Kejin met au monde et Hak, après vous avoir connu sous la forme d'un aigle, c'est un élément à porter au dossier.
Zeus fronce les sourcils, offusqué par l'intransigeance de cette jurisprudence antique.
Mais là, on va loin, là !
Exhumant des feuilles éparses, photos de famille, lettres et documents administratifs reliés par des trombones, l'avocate reste concentrée et reprend la litanie des rejetons divins.
J'ai donc aussi ici Arcas, que vous avez eu avec Callisto en vous transformant en Artémis. Zagré, que vous avez eu avec Perséphone en vous transformant en serpent. Myrmidon, engendré avec Eurymédeuse quand vous étiez une fourmi. Persée, née de Danaé après votre union sous la forme d'une pluie d'or.
Zeus l'interrompt, la voix quelque peu étranglée par l'énormité du dossier. C'est vrai que jamais par le passé, il ne s'était réellement soucié des éventuelles conséquences de ses pléthoriques conquêtes amoureuses. On n'allait quand même pas l'accabler, lui, le dieu des dieux, pour de simples bagatelles.
Bon, d'accord. Mais ça dit quoi, du coup ?
Devant le désarroi de Zeus qui pétrit nerveusement son foudre entre ses doigts, l'avocate pressent qu'il s'agit maintenant de faire preuve de pédagogie avec son client.
Écoutez, monsieur Zeus, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. On va mettre le paquet sur votre dossier. Mais malgré tout, je dois être honnête avec vous. Préparez-vous à payer une très grosse pension alimentaire. Chant 8, où les questions de diététique et d'alimentation s'invitent à la table d'Ulysse et Pénélope. Qu'il est bon d'être chez soi attablé avec des amis, tandis que le tumulte de la mythologie se déchaîne au dehors. Achille, le guerrier invaincu, et l'infatigable Hercule se sont invités chez Ulysse à Ithaque. Un peu de calme sous la tonnelle pour oublier, bercé par le chant des cigales, la furie des temps héroïques. Du fond de la cuisine retentit la voix chantante de la fidèle Pénélope.
« Attention les guerriers, il y a de la place sur la table ? Voilà le déjeuner qui arrive !»«
Oh la vache, j'ai une de ces dalles, moi !»«
C'est clair, la guerre de Troie, ça creuse !»«
Hercule, tu veux bien m'aider à porter le plat ? Il pèse une tonne !»
Hercule s'extrait de la banquette pour porter assistance à l'épouse de son ami.
« Franchement, Ulysse, t'as trop de bol d'avoir une femme comme Pénélope qui te prépare des bons petits plats. Moi, je rentre le soir, j'ai taffé toute la journée, j'ai fait mes 12 travaux et tout. Eh ben, je suis obligé de passer faire des courses chez Icar surgelé et de me déconfler une moussaka au micro-ondes. »
Quand Pénélope rejoint les convives, suivie par Hercule chargé du saladier, elle avise Achille qui s'est renversé en arrière sur une chaise et sirote un verre d'ouzo, les pieds croisés sur le rebord de la table.
Achille, je me trompe ou je t'ai déjà demandé de ne pas mettre tes talons sur la table ?
Le ton sévère de la maîtresse de maison intimide le guerrier qui se redresse aussitôt.
Oui, pardon.
Qu'est-ce que tu nous as préparé, ma chérie ?
C'est lundi, c'est tzatziki.
Encore ? Je veux dire, on en mange vachement souvent, non ?
C'est délicieux et c'est idéal pour la santé. Ça fait partie du régime crétois.
Il paraît qu'avec du fromage, de l'huile d'olive et du tzatziki, on peut vivre jusqu'à 100 ans.
Enfin, t'as vu la gueule des Crétois ? Le roi Minos avec sa tête de cocu en chef ? Sa fille Ariane, à moitié anorexique, et sa sœur Phèdre qui se nourrit de racines ? Ça fait pas rêver non plus.
Et par-dessus le marché, le Minotaure qui bouffe de la chair humaine au fond du labyrinthe dès que les autres ont tourné le dos.
Oui, bon, mais s'ils ne passaient pas leur temps à s'entretuer en famille, ils auraient une super espérance de vie.
À ce tarif-là, je préfère encore le régime des dieux de l'Olympe. Je ne sais pas ce qu'ils mangent au petit-déj, eux, mais ils ont vraiment l'air increvables.
C'est surtout qu'ils sont gavés d'ambroisie dès leur naissance. À 12 000 euros le centilitre, moi aussi je pourrais devenir immortel.
Ouais, en tout cas, ils n'ont pas tous les problèmes de malbouffe qu'on se tape dans le bassin méditerranéen depuis la guerre du Péloponnèse.
Oh non, attends, il faut pas croire ça, hein. Les dieux, ils bouffent aussi de la merde, regarde les pommes du jardin des Hespérides.
Ben quoi? C'est vachement bon, ça! Excuse-moi, mais le jardin des Hespérides, c'est hyper bio! Vu la taille du dragon qui garde l'entrée, je vois mal des experts en costume-cravate de chez Monsanto venir faire les marioles avec leurs pesticides en promo.
Je suis désolé de te décevoir, Pénélope, mais tu te fais des idées. Moi, je connais bien le truc, j'ai bossé là-bas comme saisonnier. Déjà, ton histoire de dragon, je suis surpris que ça te mette pas la puce à l'oreille.
Je ne vois pas où est le problème.
Il a trois têtes, ton dragon. Tu trouves ça bio, toi? Je veux dire, le nuage de Tchernobyl, il a survolé toute l'Europe et comme par hasard, il serait arrêté pile à l'entrée de leur jardin. Non, là, c'est vrai qu'Hercule a raison, c'est bizarre, ces trois têtes. Et puis, c'est les pommes d'or. Comment tu peux croire qu'ils arrivent à produire des pommes en or avec simplement du compost organique?
Bon, ouais, peut-être. Enfin, quelqu'un revoit du tzatziki?
Bon, c'est délicieux, Pénélope. On sent bien l'aubergine.
Devant l'air vexé de Pénélope, Ulysse et Hercule répriment un petit rire.
Achille, c'est du concombre.
Vous savez, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller vous taper un Big Télémac et une petite frite au centre commercial Olympie 2. Hein.
Mais non, mais on adore ta cuisine. Ulysse, t'es son mari, dis-lui que c'est vachement bon. Mon amour, je te jure que je n'irai jamais m'intoxiquer chez Burger Smyrne ou Hypnopotamos.
Au fait, vous avez vu aux infos l'autre jour, il y a un couple qui avait commandé des lasagnes de bœuf là-bas.
Et alors?
Eh ben, en réalité, c'était de la viande de cheval. Et puis en plus, ils ont trouvé des plumes à l'intérieur.
La tablée grimace de dégoût. Ah, c'est répugnant!
De la viande de cheval et des plumes!
Un silence s'installe, tandis qu'une même pensée inquiète traverse l'esprit des convives et qu'ils échangent soudain un regard rempli d'effroi.
Quelqu'un a des nouvelles de Pégase?
Chant 9, où la barque de Charon qui convoie aux enfers les âmes errantes commence dangereusement à prendre l'eau. Connaît-on plus blafarde vision que celle de Charon, le passeur des enfers? Éclairé par sa lanterne, sous son sinistre capuchon, il guette le client sur la rive de l'Achéron tel un rabatteur de bateaux-mouches. Ses yeux gris fiévreux balaient les alentours avec la régularité d'un fanal. À la cantonade, forçant sa gouaille pour attirer la sympathie des passants, le nocher funèbre fait l'article et alpague le touriste avec familiarité.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur les rives de l'Achéron, fleuve des enfers, d'où l'on ne revient jamais. Hello, hello, welcome, konnichiwa.
C'est à un groupe de divinités hindoues que Charon s'adresse ainsi. Ganesh, le dieu éléphant, déchiffre à l'attention de ses collègues le tableau des horaires et des tarifs suspendus à la guérite, puis s'éloigne escorté par Vishnu et Shiva. Mais Charon n'est pas homme à se décourager. ils rattrapent les touristes agitant devant eux une liasse de prospectus publicitaires.
Bonjour messieurs, dames, intéressés par une traversée ? Payable d'avance, gilet de sauvetage fourni.
Les dieux hindous ont la sourde oreille et poursuivent leur promenade, affichant une indifférence polie. Ils croisent Ulysse qui revient tout sourire de son jogging matinal. Devant l'expression dépitée du batelier, ils se sont obligés de le réconforter.
« Dis donc, Caron, t'as pas l'air d'avoir trop de succès aujourd'hui ?»«
J'avoue que c'est pas le grand boom. Pourtant, il y a de plus en plus de migrants. C'est à croire qu'ils ne sont pas vraiment motivés. »
Les regards d'Ulysse et de Caron balaient la rive où des réfugiés à gare errent à la recherche d'un moyen de traverser le fleuve. Dans ces groupes disparates, de minces fétiches africains côtoient des masques balinais, des fantômes chinois pelés et des divinités précolombiennes en haillons colorés se réchauffent autour des mêmes feux de détritus. L'échec de 10 000 ans de politique migratoire entre les mythologies.
Non. Ils veulent obstinément passer de l'autre côté, mais c'est juste qu'ils n'ont pas un rond, en fait. Ça casse complètement le métier, je me rends bien compte, hein.
Surtout que moi, tu me connais, je fais dans le sur-mesure, l'artisanal, le mythologique traditionnel. C'est pas une croisière Costa Concordia. Regarde cette barque, sinistre, frêle, Dante Alighieri, à mort, avec des finitions impeccables. Mais évidemment, c'est pas tous ces dieux hindous ou made in China qui traînent sur la rive, qui vont être capables de voir la différence.
L'amertume qui affleure dans la voix de Caron attriste un peu Ulysse.
C'est tragique tout de même. Les types, ils sont prêts à abandonner le Nirvana ou les montagnes célestes pour tenter leur chance aux enfers gréco-latins. Ils doivent être complètement désespérés.
Le pire dans le genre, c'est les divinités africaines. Elles s'imaginent qu'ici, c'est mieux que chez elles et qu'elles vont s'intégrer à la mythologie hellénistique. Tu en connais, toi, une seule divinité d'origine subsaharienne qui soit entrée dans notre panthéon ?
Oui, non, c'est sûr. Quand tu vois que même les agents d'entretien de l'Olam sont issus d'une théologie indo-européenne...
Moi, quand je les vois, franchement, ça me fait pitié. Ah bah tiens, quand on parle de Kirikou...
À l'approche d'un groupe de dieux africains, Caron s'anime à nouveau et retrouve en un instant sa jovialité artificielle.
Bonjour, salam alaikum, guten tag, si j'ose dire.
Les dieux, ornés de kauris et de coiffes de paille tressées, viennent à la rencontre d'Ulysse et de son compagnon, Yorugu, le renard pâle de la mythologie Dogon, s'adresse au batelier.
Bonjour, vous êtes le passeur ?
Oui, monsieur, Caron, le batelier. Transport d'âmes errantes, de héros mortels et de créatures en tout genre. Pour une obole, je vous transporte sur la rive opposée à bord de ma barque, tout confort.
C'est combien, vous avez dit ?
Une obole par personne.
Le renard pâle se tourne vers ses collègues, les jumeaux sacrés, Nomo, hermaphrodite à corps de poisson.
C'est quoi comme monnaie, ça, obole ?
Jamais entendu parler de ce truc.
Ah non, mais ça, c'était fatal. Je te parie que la Grèce a fini par sortir de la zone euro.
Non, si ça se trouve, c'est une monnaie virtuelle, en fait un peu comme les bitcoins.
Tu crois qu'on peut traverser l'Achéron avec des bitcoins, toi ?
Oui, mais en attendant, on n'a que des francs CFA, alors...
Ouais, t'as raison, hein. Laissons tomber.
Le renard pâle et les jumeaux Nomo remercient Caron et poursuivent leur chemin. Mais le nocher ne peut tout de même pas laisser s'échapper un deuxième groupe de clients dans une même matinée.
Non, mais si vous voulez, on peut discuter. À combien vous allez embarquer ? Si vous voulez, je vous fais un tarif de groupe. 10 oboles pour 15 passagers. Bien 8. 8 oboles ? 8 oboles et gratuit pour les enfants ?
Les dieux Dogon sont déjà loin. Ils se rassiedent sur une cagette, dépités. Ulysse ne sait trop au juste comment lui redonner de l'allant.
Oh là là, c'est la catastrophe là. Ils sont en train de me ruiner complètement le business.
Mais qui ça, ils ?
Mais eux là-bas, les passeurs clandestins. Ils entassent 200 tchadiens sur des bateaux gonflables et ils les laissent traverser le Styx ou l'Achéron tout seul. Tiens, regarde le mec là-bas.
Ulysse lève les yeux vers un groupe de réfugiés massés devant un cyclope en survêtement.
Le cyclope avec les Ray-Ban ?
Barbe de 3 jours, un style mafieux cheap et des lunettes de soleil perchées sur la tête, le passeur fait monter les migrants dans un canot de fortune en les invectivant.
Pas plus tard qu'hier, il a envoyé 5 familles de sphinx mésopotamiens faire naufrage au large de Lesbos.
Bon sang, mais c'est horrible.
Une fois, de temps en temps, il y en a qui ont plus de chance. Ils sont secourus par une patrouille d'argonautes financée par l'Union européenne. Bien sûr, renvoyés chez eux dans leur mythologie pourrie. Mais ils retentent la traversée aussitôt.
Et nous, on est là, tranquille, en tauge, à commenter les Jeux olympiques, en mangeant de la moussaka ou à mater des programmes d'odyssée-réalité débiles à la télé.
Ah non, je te jure, la mondialisation, c'est à te dégoûter des enfers.
Chant 11, où Ulysse comprend que le chant des sirènes est aussi une question politique. Thalassa, la mer partout, toujours, tel est le destin du rusé Ulysse, condamné par Poséidon à errer à bord de son navire jusqu'à ce que s'apaise la colère divine. Rescapé de la zone des tempêtes, le voici sur le pont de son vaisseau, puissant et digne. Il s'adresse à ses compagnons d'infortune, les braves marins embarqués à sa suite au sortir de la guerre de Troie.
Chers compagnons, vaillants guerriers, amis délégués syndicaux représentant le personnel navigant de l'Odyssée, j'ai une communication à vous faire.
Quand Ulysse commence comme ça, c'est qu'il va essayer de renégocier nos RTT.
Cette fois-ci, je ne veux pas vous parler de réduction du temps de traversée ou de remise en cause de la pénibilité.
Ah, tu vois, t'étais mauvaise langue.
Je viens de recevoir un courriel de Circé, m'informant de l'imminence d'un danger sur la route maritime que nous nous apprêtons à emprunter. Des sirènes maléfiques charment de leur voix les voyageurs et les entraînent vers les abysses. J'ai cependant décidé de maintenir le plan de navigation.
Ulysse déroule un écran sur lequel il projette un Homer Point qui représente une carte maritime. Des trajectoires en pointillés se croisent et s'entrecroisent dans un complet désordre, dessinant un parcours absurde d'un coin à l'autre de la Méditerranée.
Ce genre de plan à la SNCM, ça vaudrait une grève de 3 semaines, avec blocage du port d'Ajaccio. Mais bon...
Oui, enfin, on est grec. On est grec, on va pas faire semblant d'être corse. Ulysse affecte de ne pas saisir les ruminations de son équipage et poursuit sa harangue.
Cependant, pour garantir le confort et la sécurité du personnel de bord, j'ai décidé de distribuer à chacun d'entre vous des appareils qui devraient vous prémunir de tout danger.
Il ouvre la trappe qui mène au pont inférieur et en extrait un gros carton rempli de smartphones et d'oreillettes. À la vue de ce trésor, un murmure d'enthousiasme parcourt l'équipage. Ulysse leur fait passer le carton et les portables circulent de main en main.
Eh mais c'est hyper sympa!
C'est quoi ces trucs?
Ben, c'est un smartphone. Tous les guerriers du Péloponnèse en ont. Tu peux stocker toute ta musique et tous tes films dedans. C'est hyper pratique quand t'es en voyage.
Ça a dû lui coûter une blinde.
T'inquiète pas trop pour lui, va. Je te parie qu'il a juste profité du saccage de l'Apple Store pendant la prise de la ville de Troyes pour piquer un carton dans les stocks.
En effet, les boîtes de téléphone affichent toutes le logo de l'iPhone 3.
Ah ouais, t'as raison. Enfin, c'est cool quand même.
Chacun de ces appareils est doté d'une paire d'oreillettes. Je vous demande expressément de ne pas les quitter durant toute la traversée. Il ne faut que vous n'entendiez les sons extérieurs sous aucun prétexte. Ceux qui ont écouté la voix des sirènes ont été perdus à jamais. J'ai podcasté pour vous une sélection de chansons grecques typiques qui devraient vous permettre d'échapper ainsi à une mort certaine.
Les matelots parcourent sur l'écran la programmation de la playlist.
Georges Michael, Athéna Mouskouri, Artemis Roussos, c'est plutôt si on écoute ça qu'on va vers une mort certaine.
Pendant ce temps, je serai moi-même attaché par vos soins au mât du bateau avec des liens solides. Même si je vous ordonne de me détacher, vous ne devez jamais céder à mes supplications avant d'avoir franchi ces périls.
Je rêve ou il nous propose un plan bondage, là?
Le ciel s'est couvert, la mer est plus agitée, le soir tombe et le bateau trace son tillage dans les eaux sombres de la Méditerranée. Ulysse est ligoté aux aguets et les rameurs ont tous des oreillettes qui crachotent de la musique. Eurylochue bougonne en actionnant sa rame en rythme.
Ah, elle est belle la modernité. Chacun avec ses petits écouteurs, plus personne ne se parle. C'est vraiment le triomphe du moi, hein.
Épiménée retire ses AirPods et se penche vers son compagnon. Tu dis quoi ? Ulysse a repéré le récalcitrant.
J'ai dit on ne retire pas ses oreillettes !
Les marins continuent de ramer, imperturbables, et l'étrave fend les vagues avec constance. Il suffit pourtant d'un instant pour que la houle s'apaise, comme un chien obéit à l'ordre de son maître, et le vaisseau soudain s'immobilise. C'est comme si l'on se mettait soudain à flotter sur un miroir. Ulysse perçoit seulement un léger clapotis contre le flanc du bateau. C'est alors que s'élèvent des voix suaves, entremêlées, d'abord chuchotements, puis musique entêtante, qui très vite tourne la tête d'Ulysse. Il ne peut détacher son attention de ses chants. Autour de la coque, un balai de sirènes se déploie, chevelures argentées et écailles luisantes, regard qui darde des flammes froides vers le capitaine, ligoté au mât.
Ulysse, Ulysse, rembourse les 320 milliards prêtés par l'Europe. Ulysse, dégage un excédent budgétaire de 3,5%. Transforme ton système fiscal.
Ulysse est au supplice. Les voix lui percent les tympans, il est prêt déjà à se jeter à l'eau.
Non, non, détachez-moi !
Et le prêt du FMI à 1,5%, Ulysse, réforme ton système de retraite, divise de 230% le salaire de tes fonctionnaires.
Ulysse s'arc-boute, son visage grimace de douleur, ses yeux roulent dans ses orbites. Mais ses liens résistent et ses compagnons se gardent bien de lui porter secours.
Pitié ! Non ! C'est insupportable !
Rétablis le contrôle des changes.
Dans la soirée, deux hauts fonctionnaires de la Commission européenne sont réunis dans un bureau impersonnel du Parlement à Bruxelles.
Alors, ça a marché ?
Pas vraiment. À croire que les Grecs sont complètement bouchés, j'ai bien peur que les sirènes de la Banque Centrale Européenne ne soient pas assez efficaces face au rusé Ulysse.
Bon, ben, on va envoyer la deuxième équipe.
Sur le visage du Danois passe alors un souffle d'effroi, tandis que le Néerlandais appuie sur l'interphone posé à plat sur le bureau et se penche vers le micro.
Vous êtes sûr ?
Au bout du fil, une voix caverneuse décroche aussitôt.
Posez donc, j'écoute.
Commission européenne à l'appareil. Envoyez-leur les sirènes de la Bundesbank.
Chers auditeurs, si votre culture de la mythologie grecque ne s'est pas approfondie à cette écoute, nous vous recommandons bien sûr la version originale d'Homère. Cependant, si vous avez ri ou souri, continuez la lecture de cette version de Jules, qui finalement contient quelques critiques de notre époque 2.0, dont il est salutaire de se distancier. Cette émission a été préparée et présentée par Anne, Patrick, Paul et Guylaine, enregistré et monté par Claude Michel. La musique du film Zorba le Grec a été composée par Mikis Theodorakis. À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
105.5 FM.